Vous aimez la musique? Alors écoutez l'émission La Clé des Champs sur RLP 102.3. Chaque semaine, nous vous donnons les clés pour comprendre et aimer la musique. Des chants, c'est l'émission consacrée à la musique, à ceux qui la font, à ceux qui l'écoutent et à ceux qui la vivent. Alors retrouvez-nous le samedi à 16h et le lundi à 17h sur RLP. Bienvenue dans l'émission La Clé des Champs, et comme chaque semaine, nous allons feuilleter ensemble le grand livre de la musique. Et Dieu sait s'il y en a des histoires à raconter, des petites histoires, et la grande histoire aussi. Ce soir, je vous propose une rencontre. Une de ces rencontres dont seule la musique a le secret. Une rencontre entre deux hommes. Très éloigné sur l'échelle du temps, mais très proche sur celle de la musique. Le premier est une vieille connaissance, Wolfgang Amadeus Mozart. Le second, autrichien lui aussi, est un très grand chef d'orchestre qui a présidé, comme Karajan, aux destinées du Philharmonique de Berlin. Karl Böhm est unanimement reconnu comme un spécialiste de la musique de Mozart. Et les symphonies enregistrées dans les studios de la Deutsche Grammophon sont devenues une référence. Elles ont été numérisées, masterisées et font désormais partie de la plus prestigieuse des collections de la maison de disques à la célèbre étiquette jaune, la collection du millénaire. La symphonie numéro 40, qui porte la codification KV-550 dans le catalogue des œuvres de Mozart, possède deux particularités. Tout d'abord, cette symphonie, composée durant l'été 1788, a été écrite sur le mode mineur. Chose assez inhabituelle chez Mozart, qui, on le sait, excelle dans la flamboyance du mode majeur. À cela, il y a deux raisons. En cet instant précis de sa vie, c'est-à-dire en l'année 1788, Mozart venait de perdre la dernière des 6 enfants qu'il avait eus avec sa femme Constance. La petite Thérésia avait tout juste plus de 6 mois. On sait aussi que le musicien, bien que ne manquant pas de commandes, était régulièrement endetté. Dans ces périodes plus noires, qui ponctuaient son existence, il lui arrivait aussi, parfois, d'écrire en mineur. L'autre particularité de la symphonie numéro 40, c'est qu'elle contient une partie de clarinette. Cette partie, absente de la partition originelle, a été rajoutée par la suite par Mozart lui-même, Cela veut dire qu'il a écouté la première version de son œuvre et que cette version ne lui convenait pas. Il a donc rajouté cette partie manquante en utilisant la couleur sonore et le registre si particulier des clarinettes. S'il est courant de trouver des parties de clarinettes sur les partitions des symphonies de Beethoven, cela ne se faisait pas à l'époque de Mozart. Comme sur de nombreux autres points, Mozart était en avance sur son temps. Il faut souligner enfin que le premier mouvement de la symphonie numéro 40, comme celui de la cinquième de Beethoven d'ailleurs, commence par un anapeste. Un anapeste, en poésie comme en musique d'ailleurs, est une cellule rythmique composée de deux syllabes ou de deux notes brèves, suivie d'une syllabe ou d'une note longue. Et c'est peut-être bien cette subtilité rythmique d'un mouvement mineur pourtant marqué molto allegretto, ajouté au génie mélodique de Mozart, qui a fait de cette symphonie numéro 40 de Mozart le succès qu'elle est encore aujourd'hui.
Thank you.
102-3, c'était le premier mouvement de la grande symphonie en sol mineur K550, la symphonie numéro 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, dans l'interprétation de Karl Böhm avec le Wiener Philharmoniker, enregistré dans les studios de la Deutsche Grammophon. Je vous propose de continuer cette écoute avec le troisième mouvement de celle qu'on appelle la grande symphonie en sol mineur, K550, de Wolfgang Amadeus Mozart. Voici un menuetto.
Thank you.
le menuetto de la symphonie numéro 40 en sol mineur K550 de Wolfgang Amadeus Mozart. Il était interprété par le Wiener Philharmoniker sous la direction de Karl Böhm. Si la symphonie numéro 40 est appelée grande symphonie en sol mineur, c'est parce qu'elle a une petite sœur, la symphonie numéro 25. La symphonie numéro 25 a été composée en octobre 1773 à Salzbourg. Elle s'inscrit dans le cadre d'un mouvement politique, littéraire et musical appelé Tempête et Passion. Ce mouvement est en quelque sorte un précurseur du romantisme. Et pour cette raison, cette symphonie numéro 25 a un caractère complètement différent des autres symphonies de Mozart. Elle possède certaines structures, des structures qui jusque-là étaient inhabituelles chez Wolfgang, comme l'utilisation de nombreuses syncopes, des dissonances, des trémolos, des passages à l'unisson, de fortes différences de dynamique, et surtout ce rythme si particulier qui fait d'elle la symphonie la plus expressive de toutes celles composées par Mozart. C'était le premier mouvement de la symphonie numéro 25 de Wolfgang Amadeus Mozart. Carl Böhm, cette fois-ci, était à la tête du Berliner Philharmoniker. RLP 102.3, Radio Libre en Périgord, vous écoutez actuellement l'émission La Clé des Champs, l'émission consacrée à la musique, à ceux qui la font, à ceux qui l'écoutent et à ceux qui la vivent. Et l'émission de ce soir est consacrée aux grandes symphonies de Mozart, interprétées par le chef d'orchestre autrichien Carl Böhm.
Thank you.
La profondeur et la puissance du premier mouvement Allegro Vivace de la symphonie numéro 41, symphonie Jupiter, de Wolfgang Amadeus Mozart, interprétée par Carl Böhm à la tête du Wiener Philharmonic. Le chef d'orchestre que nous allons évoquer ce soir, c'est un peu le Karajan autrichien. Fils de juriste et promis à une carrière de juriste, Carl Böhm étudie le droit avant d'étudier la musique au conservatoire de Graz, puis de Vienne. Il est appelé à servir dans l'armée autrichienne durant la Première Guerre mondiale. C'est à Graz, dans sa ville natale, de 1917 à 1920, qu'il fait ses premiers pas de direction d'orchestre. D'abord répétiteur, puis second chef, et enfin premier chef. Il est appelé par Bruno Walter à Munich en 1921. Sa carrière progressera vite. Il occupe successivement le poste de directeur de la musique à Darmstadt, Hambourg, à l'Opéra de Dresde et enfin à l'Opéra de Vienne. À partir de 1938, il dirige chaque année dans le cadre du prestigieux festival de Salzbourg. Thank you. RLP 102.3, c'était le final, Allegro assai, de la symphonie numéro 40, K550, de Wolfgang Amadeus Mozart. Après la Seconde Guerre mondiale, tout comme Karajan, Karl Böhm est accusé à tort d'avoir collaboré au régime nazi. En fait, s'il a cru, comme beaucoup d'autres, en la Nouvelle-Allemagne, Karl Böhm, lui, n'a toujours été membre que d'un seul parti, celui de la musique.
Thank you.
Comme toujours avec Wolfgang, c'était une petite gâterie musicale, un de ces petits bijoux musicaux dont il avait le secret. En l'occurrence ici, c'était la romance extraite de la sérénade nocturne K525 en sol majeur, la petite musique de nuit, et bien sûr, elle était dirigée par Carl Baum. Romantique, eh bien, nous allons le rester, avec Pierrot et avec Colombine, c'est encore un clin d'œil à Mozart, mais aussi à Fred Mella et à tous ses compagnons de la chanson.
Autant de Pierrot et Colombine dans un monde moins fou qu'aujourd'hui. Pierrot n'avait pas d'automobile pour aller retrouver son ami.
Il courait à perdre haleine sans s'arrêter aux fontaines. Il courait, courait, courait.
Quand Pierrot retrouvait Colombine pour aller l'emmener dans les bois, Pierrot n'ayant pas d'automobile, prenait sa douce amie par le bras. Et les mots lui venaient, et les phrases tournaient.
Et Pierrot bavardait, bavardait, sans penser à l'embrasser.
Et sans automobile, au bras de Colombine,
il prenait tout son temps, pour lui offrir ses 20 ans.
Pierrot rêvait de Colombine, qu'il savait toute seule à la ville. Pierrot n'ayant pas de téléphone, pour pouvoir appeler la mignonne,
allumait une chandelle, et couchait sur le papier les choses les plus belles.
Et Pierrot tout entier à sa plume, écrivait pour calmer son ardeur. Sous le regard distrait de la lune, souriant devant tant de bonheur. Et les mots lui venaient, et les phrases tournaient.
Et son cœur chavirait, chavirait, dans le bleu de l'encrier.
Et les mots voltigeaient, et les phrases tournaient.
Et quand venait le jour, il restait plus de 100 lettres d'amour.
Pierrot attendait Colombine, qui faisait son travail à la ville. Pierrot n'avait pas d'électrophone, pour tuer tout ce temps monotone.
Il prenait sa mandoline, composait des menuettes, des jolies cavatines.
Quand Pierrot épousa Colombine, il était poète et musicien. Colombine chantait dans sa cuisine, en faisant sa lessive ou son pain. Et sans automobile, amoureuse et tranquille,
ils prenaient tout leur temps, pour s'aimer éperdument.
Et sans le téléphone, et sans électrophone,
ils vécurent jusqu'à près de 100 ans, et ils eurent beaucoup d'enfants.
Ainsi se termine ce programme consacré à Mozart et à Carl Baum. C'était une émission de la série La Clé des Chants et vous étiez en compagnie d'Éric. C'est avec une très grande émotion que je dédie ce soir ces quelques notes à Alain. Alain qui nous a quittés le jour de la fête de la musique. Alain qui est parti pour un pays d'où l'on ne revient pas. Alain qui peut-être, un jour, rencontrera Mozart.
Je n'ai plus doit être encore dans les champs. Depuis longtemps la pluie s'est arrêtée et le ciel est bleu comme avant. Mon âme n'est pas rentré podé. Je n'ai, il a dû se perdre en chemin. Ou bien il s'est endormi tout près du vieux moulin. Il a dû quitter le pays. Sans doute a-t-il enfin trouvé l'amour comme dans une symphonie. Moussa n'est pas rentré depuis 3 jours. Si jamais vous le rencontrez, surtout dites-lui qu'on l'attend toujours à Salzbourg. Rien n'est plus triste qu'un piano fermé. Pourtant vivre quelque part, que chacun le cherche partout. Dépêchez-vous avant qu'il soit trop tard, avant que le monde soit fou. Moussa doit pourtant vivre quelque part, c'est pourquoi ne réveillez pas cet enfant blanc qui s'endort au piano. Mais ce soir,